Bonjour et bienvenue, c'est Bruno et vous écoutez Easy Reader.
I want to reach you emotionally first. I want to make your flesh creep, I want to make your pulse race, I want to make your eyes tear up.
Je suis devenu romancier parce qu'un jour, quand j'étais gamin, j'ai ouvert un livre de Stephen King, que j'ai trouvé ça formidable d'avoir peur, que j'ai lu tout Stephen King, que j'ai eu très peur et qu'à un moment j'en voulais plus, et je me suis mis du coup à écrire des histoires qui font peur.
Easy Reader.
Bienvenue, bienvenue, mettez-vous à l'aise. Avant de commencer, le sempiternel rappel du concept de l'émission. Auteur connu ou inconnu, oublié ou inoubliable, à chaque épisode, vous découvrirez avec moi le ou les premiers chapitres de livres fantastiques, d'horreur ou d'autres styles suivant mon humeur. Et je l'espère, je vous donnerai envie de plonger dans la lecture de ces ouvrages. Et afin de rendre tout cela plus intéressant, je ne donnerai ni le titre ni l'auteur, et ce sera lors de l'épisode suivant que je vous dévoilerai tout ça avec un petit résumé et un avis. Lors de l'épisode précédent, nous découvrions Jimbo et l'ordinateur Fozzy à la recherche de jeunes surdoués. Il s'agissait du roman La nuit des enfants rois de Bernard Lantéric, un auteur français né en 1934 et décédé en 2009. Il commence sa carrière de romancier à l'âge de 46 ans et en l'espace de 25 ans, il nous livrera une vingtaine de romans dans des styles allant du polar, de l'épopée familiale, au thriller horrifique ou animalier. Le grand public le connaît surtout pour sa saga Les Maîtres du Pain, qui fut adaptée en 93 en mini-série de 3 épisodes. Et d'ailleurs, le livre qui nous intéresse aujourd'hui, le premier vrai succès de Lantéric, en 1980, a lui aussi été adapté en film d'animation en 2011, sous le titre Je Prodigies. Mais de quoi ça parle? Lors de l'épisode, nous savions qu'un programme mené par la Fondation Kilian était à la recherche de surdoués. Le programme va permettre à Jimbo Farrar de rencontrer 7 enfants, 7 génies, 6 garçons et une fille. 10 ans après, ces enfants intègrent une école, mais une terrible agression va pousser ce groupe à utiliser leur pouvoir pour mener une vengeance sanglante. Que dire sur ce livre? Un monument de la littérature française, au style simple et efficace, mais qui aborde plusieurs thématiques avec profondeur. La réussite vient en grande partie de son personnage principal, Jimbo Farrar. Il est à la fois le spectateur de ce chaos, mais aussi son créateur en ayant permis la rencontre de ses enfants. Il est d'ailleurs assez récent de constater des thématiques récurrentes dans des œuvres de la même époque, les années 80, œuvres qui marqueront la pop culture, que ce soit Carrie de Stephen King, Akira de Katsuhiro Otomo, et donc Les Enfants Rois. Ces 3 œuvres nous présentent des enfants au pouvoir inimaginable, qui vont devoir faire face à la cruauté de notre monde et y répondre à leur façon. La Nuit des Enfants Rois, c'est un roman qui ne vieillit pas, toujours aussi efficace et que je vous recommande donc. Concernant l'adaptation en film d'animation, ça sera un gros bof. J'adore certains partis pris visuels, mais on sent que ce film aurait mérité d'être peaufiné quelques mois de plus et c'est bien dommage. Ça reste une œuvre divertissante, mais qui n'atteint jamais la puissance du roman. Et si nous passions à un nouvel ouvrage? Installons-nous bien confortablement, baissons la lumière, ouvrons le roman et commençons la lecture. Randall Buckwater n'avait pas prononcé un seul juron depuis le jour de son mariage, 30 ans plus tôt, lorsqu'il avait promis à sa femme d'arrêter les grossièretés. Mais lorsqu'il fit demi-tour et enfonça l'accélérateur pour quitter la scène aussi vite que possible, il faillit bien en lâcher quelques-uns. À défaut, il opta pour la meilleure alternative qui lui vint à l'esprit. Il hurla les paroles de « On the Wings of Love » de Jeffrey Osborne. Ce n'était pas la réaction la plus logique à la situation, et il n'admettrait jamais l'avoir fait quand on l'interrogerait au sujet de l'accident. Mais il était en état de choc et de panique. Cela ne faisait aucun doute pour lui. La scène terrifiante dont il venait d'être témoin resterait gravée dans son esprit jusqu'à la fin de ses jours. Et On the Wings of Love ne sonnerait plus jamais de la même façon. La nuit s'annonçait pourtant si calme, si ordinaire. Randall et son nouveau coéquipier, Pete, étaient postés sur le pont depuis 4 heures lorsqu'ils apprirent la triste nouvelle. Marjorie Buckingham venait de mourir. Cela faisait des mois que l'adorable vieille dame était malade et une vilaine pneumonie avait fini par l'emporter. Le commissaire O'Grady leur avait transmis la nouvelle par radio peu après 2 heures du matin. « Nous y voilà, » dit Randall à son jeune acolyte. « Ta première mise à jour du panneau. » Merveilleux, répondit Pete avec sarcasme. La voiture de patrouille était garée à droite du pont, juste à la frontière du comté. Face à la route, les deux hommes attendaient les automobilistes susceptibles de vouloir traverser le pont. Le panneau dont Randall parlait était celui qui affichait le nombre d'habitants et qui se dressait fièrement à l'entrée de la ville. On pouvait y lire « B-Movie Hell, population 3672 ». T'as juste à retourner le 2, dit Randall. Il y a un 1 de l'autre côté. J'en ai rien à foutre de ce qu'il y a de l'autre côté et j'ai pas envie d'y aller maintenant. Pourquoi donc ? Il y a un putain de rongeur géant dans les parages, répondit Pete d'un ton plaintif. Non, il n'y a aucun rongeur géant dans les parages. Allez, c'est un moment important. Ta première mise à jour. Tu devrais être fier, je l'étais moi la première fois. Et il y avait combien d'habitants à l'époque, demande Pete ? 2044. Enfin, à l'époque ça s'appelait Sherwood County. Un nom beaucoup plus approprié pour une ville. B-Movie Hell, c'est quand même carrément plus cool, non ? Je trouve pas, non. C'est parce que vous êtes un vieux con. Randall observa le gamin assis sur le siège passager. Rien ne semblait pouvoir l'intéresser. C'était un gentil garçon, Pete. Il avait un cœur en or, mais de la merde à la place du cerveau. À 19 ans, il avait la maturité intellectuelle d'un gosse de 10 ans. Randall se demandait parfois s'il n'était pas un peu comme lui à son âge. Et puis, il se rendit vite compte que c'était impossible. À 19 ans, Randall avait déjà épousé son amour d'enfance et il était sur le point de devenir père pour la première fois. Pour le bien de tous, il valait mieux que Pete ne se reproduise pas avant au moins 5 bonnes années. « Je vous assure, il y a quelque chose là-bas, » dit Pete en louchant à travers le pare-brise. « C'est juste un bâton, ça bouge pas. À mon avis, c'est plutôt un écureuil, un énorme écureuil, putain. C'est carnivore, un écureuil ? Ça ne mange que des glands. » « Ouais, bah, hors de question que je sorte de la voiture, » dit Pete. « Je te dis que c'est un bâton, » affirma Randall. Contrairement à son coéquipier, il n'avait pas besoin de regarder de plus près. Il préférait observer avec fascination son jeune apprenti. Cet idiot pensait vraiment avoir vu un écureuil dans les bois et il n'y avait pas d'écureuil à B-Movie Hell. Il n'y en avait jamais eu. Le bois que Pete scrutait du regard se trouvait de l'autre côté de la frontière du comté, à 30 mètres de B-Movie Hell, dans le comté de Lewisville. Mais ça ne changeait rien. Randall savait très bien qu'aucun écureuil ne s'y cachait. Ce débat pour savoir si ce qu'il voyait au loin était un écureuil ou un bâton donnait une idée de l'activité trépidante qui avait animé cette nuit incroyablement longue. Mais depuis le temps, Randall savait que, dans un patelin comme le sien, le boulot d'un flic n'avait rien à voir avec ce qu'il voyait à la télévision ou dans les livres. Le moment le plus palpitant de sa journée, c'était lorsqu'il négociait les dons pour sa cagnotte de retraite avec des automobilistes malchanceux contrôlés pour un feu arrière cassé ou un pneu un peu trop lisse. « Je vous assure que c'est un écureuil !» insista Pete. « Vous voyez pas cette queue crépue ? C'est un écureuil, je vous dis !» Randall hocha la tête en regardant d'un air perplexe l'idiot qui lui servait de collègue. La conversation, ce n'était pas son fort à Pete, et son allure ne l'aidait pas vraiment à compenser cette faiblesse. Il avait cette coupe de cheveux ridicule qu'arboraient les jeunes de son âge, une sorte de nid d'oiseau qu'on s'attendait à voir orné d'une paire de bois. Ses cheveux cachaient la moitié de son visage et n'amélioraient certainement pas l'état de sa peau grasse et boutonneuse. Pour ne rien arranger, Pete semblait être incapable de fermer la bouche. Sa mâchoire, toujours légèrement tombante, donnait l'impression qu'il était sur le point de dire quelque chose. Mais avec ses yeux constamment plissés, le gamin avait vraiment besoin de lunettes, cela ne faisait que renforcer son air benêt. « Merde, je crois qu'il est parti !» lança Pete en plissant les yeux un peu plus, le visage presque collé au pare-brise. « Y a jamais rien eu !» « Tu veux bien aller changer le nombre d'habitants sur le panneau maintenant ?» Pete haussa les épaules. « Pas maintenant, » répondit-il en se tripotant l'entrejambe. « L'écureuil pourrait revenir d'un moment à l'autre, avec des renforts. » Randall tourna la tête et regarda par la vitre côté conducteur. Il avait laissé une de ses mains sur le volant, pourtant ils étaient garés. « D'accord, imaginons qu'il y ait un écureuil dans les parages, » dit-il. « Ça peut pas être plus dangereux qu'une bagarre d'ivrognes en ville. Avec les ivrognes, au moins... » « On se fait un peu moins chier, » répondit Pete d'un ton plaintif. « Vois un peu plus loin que le bout de ton nez. Il y a pas mal d'argent à se faire sur ce pont. »« Comment ça ?» demanda Pete après un moment de silence. « Si tu te montres peu conciliant, comme moi, les gens te donneront quelques dollars pour les laisser passer plus vite. »« Des pots de vin, vous voulez dire ?» Randall se tourna vers Pete. « Des dons. Je vois plus ça comme des dons pour ma cagnotte de retraite. »« Vous partez quand à la retraite ?» demanda Pete. « Dans 5 ans. Je pars à 55 ans. » 36 ans dans la police, c'est bien assez, je trouve. Pete fronça les sourcils. Il était visiblement en train d'essayer de faire le calcul. Randall hocha la tête et regarda de nouveau par la vitre. Il n'y avait pas grand-chose à voir. Un réverbère solitaire éclairait l'extrémité du pont menant à B-Movie Hell. Quand ils étaient en patrouille de nuit, ils avaient de la chance s'ils voyaient passer une voiture par semaine. C'est ce qui rendait fous les policiers, l'ennui, l'attente et l'absurdité de la situation. Avec le temps, Randall s'y était habitué. Les seuls moments difficiles, c'est lorsqu'on lui refilait un nouveau coéquipier comme Pete. Les conversations futiles étaient parfois plus abrutissantes que le silence. « Vous leur faites payer combien aux gens pour passer ?» demanda Pete. « Autant qu'ils ont l'air de pouvoir se permettre. »« Et vous faites combien au max ?»« $50. »« Merde, sérieux ?» Pete semblait impressionné. « Je vous parie que je peux m'en faire 100. » Randall se tourna de nouveau vers lui et le surprit en train de se gratter le pubis pour la 100e fois de la soirée. « Qu'est-ce que t'en ferais de cet argent ?» demanda Randall. « Tu achèterais de la crème pour soulager tes démangeaisons ?»« Quelle démangeaison ?» T'as passé la nuit à te tripoter, tu commences à m'inquiéter. Pete grimaça et rata de se gratter pendant quelques minutes. J'ai peut-être bien attrapé un truc au minou joyeux la semaine dernière. Randall leva un sourcil perplexe. Tu vas chez Mellencamp ?
Pas souvent, juste une fois de temps en temps.
Tu te protèges au moins ?
De quoi ?
Tu sais très bien ce que je veux dire. Il fallut en réalité plusieurs secondes à Pete pour comprendre ce que Randall voulait dire.
Ah ! Oui, enfin, pas tout le temps, mais cette gonzesse, la semaine dernière, elle avait des plaques rouges sur le visage. Ça doit être elle qui m'a refilé un truc.
Randall secoua la tête.
Merde, Pete, tu peux même pas choisir la fille.
Les joues de Pete s'empourprèrent légèrement.
Bah, si, mais je l'avais jamais choisie avant, je me suis dit que ce serait pas très poli.
Je croyais que tu n'y allais pas souvent.
Non, mais je crois bien que j'ai essayé chaque fille au moins une fois.
Et il y a combien de filles ?
Une trentaine. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas embauché de nouvelles. Ils devraient ramener un peu de chair fraîche.
Faudrait pas que Mellencamp t'entende.
Il est pas si méchant que ça, vous savez. Il est toujours super sympa quand je le vois.
Bien sûr qu'il l'est, répondit Randall, moqueur.
T'es un de ses clients. Ça veut dire que tu as une dette envers lui.
Je lui dois rien, je paye avant. C'est une des règles.
D'accord, mais qu'est-ce qui se passera quand tu l'arrêteras pour un feu arrière cassé, hein ?
Il a un feu arrière cassé ?
Non, mais si ça arrive un jour, tu pourras rien faire.
Pourquoi ?
Parce qu'il raconterait à toute la ville que tu aimes te faire titiller les couilles avec un plumeau à poussière.
Pete eut l'air surpris. Comment vous savez ?
J'en sais rien, je ne faisais que spéculer. Il regarda son jeune coéquipier de plus près.
Tu aimes te faire titiller les couilles avec un plumeau à poussière ?
Non.
Enfin bref. Randall voulait éviter de s'attarder sur une vision de son collègue dans une situation compromettante avec un ustensile de ménage. « Ce que je veux dire, c'est que ce genre de truc, ça peut revenir te hanter. Si Mellencamp a de quoi te faire chanter, un jour il viendra te demander une faveur qui ne te plaira pas, et tu te sentiras obligé de dire oui tout en sachant que tu ne devrais pas. »
Pete éclata de rire, avant de recommencer à se gratter les parties intimes.
« Ouais, pigé !»
Soudain, il se redressa comme si on venait de lui taper dans le ventre avec un tisonnier brûlant.
« Faut que j'aille pisser » déclara-t-il.
« Et l'écureuil ? Quel écureuil ?»
Randall poussa un profond soupir et tendit la main vers la radio. Il l'alluma et reconnut immédiatement la chanson qui passait. Il monta le son. C'était The Greatest Love of All, de Sexual Chocolate.
« Tu veux bien changer le nombre d'habitants avant d'y aller ? » demanda-t-il.
« Je le ferai en revenant, je vais exploser. »«
Ok, mais dépêche-toi avant qu'on ait un autre mort. »
Pete ouvrit sa portière, mais avant de descendre, il se tourna vers Randall.
« À mon retour, vous pensez qu'on pourra écouter autre chose que MM pour une fois ?»
C'est quoi le problème avec EMM ?
80s Movie Music. Je vais pas supporter cette paire de ringardes beaucoup plus longtemps.
Mais c'est la station locale, faut bien soutenir les locaux.
Vous avez pas envie d'écouter quelque chose de différent pour changer ?
Et comme quoi ?
Bah, pourquoi pas un peu de rap ?
C'est quoi ça, le rap ?
Randall savait parfaitement ce qu'était le rap, mais il aimait bien faire semblant de pas connaître ce genre de choses, juste pour voir à quel point ça énerverait Pete.
Bon sang, Randall, à mon retour... Je vous ferai découvrir du bon rap de gangster.
Randall monta un peu le son de la radio et regarda son jeune acolyte traverser l'étendue d'herbe qui conduisait à une forêt sombre à quelques mètres de là. Bientôt, Pete disparut derrière de grands arbres. Il était évident qu'il n'allait pas simplement pisser. Il avait probablement besoin de se gratter ou d'inspecter la cochonnerie qu'il semblait avoir attrapée au minou joyeux. Randall frissonna en y pensant. Il essayait de se rappeler s'il avait eu un quelconque contact physique avec Pete au cours de la nuit. Lorsqu'il fut rassuré, il se fit plaisir en chantant par-dessus The Greatest Love of All et une autre chanson moins mémorable de Wild Stallions. Quand cette dernière se termina, il laissa place aux publicités, 5 bonnes minutes s'étaient écoulées et toujours aucun signe de Pete. Randall décida alors de le surprendre en trouvant une station qui passait du rap. Il en parcourut plusieurs avant d'y parvenir, mais il ne put en supporter que 10 secondes avant de changer de nouveau de station. C'est à ce moment-là qu'il tomba sur Jeffrey Osborne, chantant « On the Wings of Love ». Il n'avait pas entendu cette chanson depuis plusieurs années, mais il se souvint instantanément du plaisir qu'il ressentait lorsqu'il la chantait à plein poumon, dans sa jeunesse. Convaincu que personne d'autre que Pete pourrait l'entendre, il baissa les deux vitres de la voiture, monta le son au maximum et se mit à chanter à tue-tête en duo avec Jeffrey Osborne pendant le refrain. Même s'il chantait en y mettant tout son cœur, Randall ne pouvait s'empêcher de garder un œil fixé sur les bois plongés dans l'obscurité. Il s'attendait à voir Pete en sortir à tout moment, curieux de connaître la raison de ce raffut. Mais le jeune policier n'en venait pas. La forêt était calme comme la mort. Lorsque la chanson arriva à son couplet final, il décida de faire des appels de phare dans l'espoir d'attirer l'attention de Pete. Après seulement quelques secondes, il vit enfin quelque chose bouger. Une silhouette massive, aux épaules larges, sortit des bois et se dirigea vers la lumière aveuglante qui émanait des phares de la voiture. Mais ce n'était pas Pete. C'était un homme beaucoup plus imposant. Pendant qu'il marchait, au centre du faisceau lumineux, Randall put l'observer attentivement. Il cessa immédiatement de chanter « On the Wings of Love ». Son visage se figea au beau milieu du couplet quand il vit ce qu'il avait devant les yeux. L'homme qui sortait des bois s'arrêta au centre de la lumière, comme pour offrir une meilleure vue sur sa personne à Randall. Il portait un jean noir et une veste en cuir verni rouge par-dessus un débardeur noir. Son visage était terriblement pâle. C'est en tout cas ce qu'il sembla à Randall avant que son cerveau n'analyse ce qu'il voyait. C'est à ce moment-là qu'il comprit qu'il ne regardait pas un visage fait de peau et d'os. Il regardait un masque en caoutchouc, un masque jaune et sale, censé imiter un crâne humain. Il affichait un sourire maléfique et plusieurs de ses dents étaient noircies. Au-dessus du masque se dressait une bande de cheveux rouges, qui commençait sur le haut du front comme la crête d'un Mohican ou d'un Iroquois. Et à travers deux trous dans le masque, une paire de grands yeux noirs fixaient Randall. Deux autres éléments attirèrent l'attention de Randall avant qu'il ne démarre le moteur et ne fasse demi-tour à toute vitesse. L'homme au masque jaune tenait une longue lame argentée et tranchante dans sa main gauche. Une lame couverte de sang qui gouttait sur le sol. Dans son autre main, il tenait une tête humaine par une poignée d'épais cheveux bruns. Les yeux de Randall s'écarquillèrent tandis que l'image se gravait à jamais dans son esprit. C'était la tête de Pete. On laisse pas bébé dans un coin. Bébé avait entendu Patrick Swayze prononcer ces mots un millier de fois. Et il lui donnait toujours autant la chair de poule. Ces mots représentaient tellement plus pour elle qu'une simple réplique de Dirty Dancing. En son fort intérieur, elle était convaincue qu'un jour, un type comme Johnny Castle, un homme, un vrai, lui ferait tourner la tête, lui montrerait combien elle compte pour lui et l'emmènerait loin du minou joyeux. Elle rêvait qu'il l'enlève et l'entraîne dans un endroit meilleur, plus agréable. Un lieu comme la station touristique du film lui conviendrait parfaitement. Elle avait choisi le surnom de bébé peu après son arrivée chez Mellencamp. C'était un surnom plutôt approprié puisqu'elle avait pendant longtemps été la plus jeune des résidentes. Elle avait 19 ans aujourd'hui, et elle avait dû céder son titre de Benjamin à son ami Chardonnay qui n'en avait que 17. Mais le surnom était resté, d'autant que la plupart des gens ne connaissaient pas son vrai nom. Depuis qu'elle portait ce surnom, regarder Dirty Dancing était un moment spécial pour elle. Elle faisait tout pour essayer de ressembler à Jennifer Grey, l'actrice du film. Elle avait la même silhouette et ne quittait jamais son jean blanc. La principale différence entre les deux jeunes femmes était que Jennifer Grey n'avait pas une tache de naissance bleue sur la joue gauche. Bébé en avait une. Et on la voyait de loin. Elle se rappelait ce jour où, âgée d'une dizaine d'années, elle avait gâché deux savons et une demi-journée à essayer de la faire partir. Mais on ne se débarrasse pas si facilement d'une tache de naissance. Et avec les années, elle avait fini par s'y habituer. Clarisse, la tenancière du minou joyeux, en parlait comme d'un grain de beauté. Et bébé avait fini par faire de même. Enfin, avec ou sans sa tache de naissance, elle soupçonnait la plupart des autres filles d'être jalouses d'elle. Tout le monde voulait être bébé. Celle de Dirty Dancing, bien sûr. Pas celle qui était actuellement en train de regarder le DVD, seule dans sa chambre. Quelqu'un frappa à la porte. Bébé mit le DVD sur pause pour ne pas que la scène de danse finale soit gâchée par une visite impromptue ni rater une seconde de Time of My Life chantée par Bill Medley et Jennifer Warnes. Elle roula sur son lit et se dirigea vers la porte. Avant même qu'elle ne l'ait atteinte, la poignée se baissa et la porte s'ouvrit. Chardonnay passa la tête dans l'entrebâillement. « Salut bébé, qu'est-ce que tu fais ?»«
Rien, je regardais un film. »
Chardonnay avait ses longs cheveux bruns relevés en chignon sur le dessus de sa tête. Elle était naturellement très belle et avait une magnifique peau couleur olive. Elle entra et ferma doucement la porte derrière elle.
« T'as regardé les infos ? » demanda-t-elle.
« Non, pourquoi ?» Chardonnay était une des rares à aimer son boulot, minou joyeux. Contrairement à bébé, elle n'aspirait en aucun cas à en partir un jour. Elle adorait ce travail autant que vivre à B-Movie Hell. Elle attrapa la télécommande sur le lit de bébé et la pointa vers le téléviseur. Elle était sur le point d'appuyer sur une touche quand elle remarqua Patrick Swayze sur l'écran.
« T'es encore en train de regarder Dirty Dancing ?»«
Il n'y avait rien d'autre à la télé, » mentit bébé. Chardonnay lui sourit, sauta sur le matelas et s'assit contre la tête de lit. D'un bond, bébé la rejoignit et se blottit contre elle. Elles étaient toutes les deux en pyjama. Bébé compara le sien en flanelle et à l'effigie de Titi, à celui en soie de Chardonnay au motif léopard. Chardonnay était tellement plus adulte qu'elle, tellement plus sophistiquée. « Tu devrais essayer de regarder Coyote Girls un jour. C'est vraiment génial, » dit Chardonnay.
« Ça peut pas être aussi génial que Dirty Dancing. Personne n'arrive à la cheville de Johnny. »
Mais Chardonnay secoua la tête et répondit avec un grand sourire. « Mais Patrick Swayze est mort. Adam Garcia de Coyote Girls est bien vivant, lui, et il est toujours aussi sexy.
Eh bien, je te le laisse. Moi, je garde Johnny. »
« Ok, » dit Chardonnay en appuyant sur les touches de la télécommande. « Mais si Adam Garcia débarque ici un jour, je m'en souviendrai. » Bébé était un peu agacé par Chardonnay, qui n'arrêtait pas de zapper. Le DVD de Dirty Dancing était sur pause, elle ne raterait donc rien, mais quand bien même. Elle n'avait pas donné la permission à sa collègue de zapper.
« Qu'est-ce que tu cherches ?» demanda-t-elle. « Les infos. Ah voilà, regarde !»
Bébé regarda l'écran. Elle n'avait pu s'offrir qu'un petit téléviseur portable, mais même sur l'écran minuscule, elle reconnut le visage affiché derrière le présentateur.
« C'est Pete Deville ?»«
Ouais, » répondit Chardonnay, « et il a été assassiné. » Bébé mit la main devant sa bouche.
« Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était un type bien, Pete. »
Ils ne disent pas grand-chose pour le moment, mais Sophie a entendu dire qu'un psychopathe avec un masque lui avait coupé la tête.
« Quoi ? » ?»«
Je te l'assure, ils parlent pas encore de la décapitation aux infos, mais ils ont dit que l'assassin portait un masque. »
Ils l'ont attrapé ?
Non, dit Chardonnay en feignant une expression de terreur. Mais imagine s'il vient ici. Qui sait qui sera le prochain à avoir la tête tranchée ?
Plaisante pas avec ce genre de choses, ça dit la bébé en la bousculant gentiment.
C'est quand même excitant, non ? Je crois pas qu'on ait déjà eu un serial killer à B-Movie Hell.
Et j'aurais apprécié que ça reste comme ça. J'arriverai jamais à dormir après ce que tu m'as dit.
Docteur Bob a une bonne idée.
Comment ça ?
Il a quitté la ville ce matin. Il est en vacances aux îles Fidji pour 2 semaines.
Sérieux ? Qui c'est qui donne les médocs maintenant ?
Clarisse, j'imagine. Bébé était ravie d'apprendre que le docteur Bob était parti, mais elle n'en montra rien à Chardonnay.
C'est flippant, non ? Il y a un serial killer en liberté et notre médecin est parti aux Fidji.
C'est pas comme si ça allait changer grand-chose, répondit Chardonnay en rigolant. Si on te coupe la tête, le docteur Bob ne pourra pas te la recoudre.
Arrête, c'est horrible ! Tu devrais pas plaisanter avec ça.
Personne n'écoute. Peut-être, mais plaisanter avec ça, c'est provoquer le destin.
Chardonnay éclata de rire.
C'est trop facile de te faire peur. Tu veux que je reste avec toi ce soir ? Quelque chose dans la façon dont Chardonnay avait prononcé ces mots laissait penser qu'elle voulait rester avec bébé. À vrai dire, le fait qu'elle était déjà en pyjama et tirait la couette vers elle suggérait même une forte envie de rester. Ça ne dérangeait pas bébé. Elle comprenait que personne n'ait envie de rester seul en sachant qu'un tueur masqué sévissait dans la ville. En réalité, plus bébé y pensait, plus elle était soulagée d'avoir de la compagnie.
« D'accord, dit-elle, mais il va falloir que tu regardes la fin de Dirty Dancing avec moi. »
« Pas de problème, mais après on regarde Coyote Girls. Il faut absolument que tu vois ce film. »«
Ça parle de quoi ?»«
Ah, ça va te plaire. Ça parle d'une fille qui s'enfuit de chez elle pour commencer une nouvelle vie à New York. Elle trouve un boulot dans un bar et tombe amoureuse d'un type vraiment craquant. »«
Ah, j'adorerais aller à New York. »
Bah ce soir, bébé, on y va avec Adam Garcia, dit Chardonnay en bondissant hors du lit pour aller chercher son DVD de Coyote Girls. En ouvrant la porte, elle ajouta « Sauf si le tueur masqué nous attrape avant. »
Bébé sourit poliment. Cette histoire de tueur masqué ne l'inquiétait pas plus que ça. Ce qui l'intéressait, en revanche, c'était que le docteur Bob, le médecin résident du Bidou Joyeux, avait quitté la ville.
Ainsi s'achève ce moment de lecture. Nous découvrirons l'ouvrage lors du prochain épisode, mais avant de nous quitter, cette fois-ci ce n'est pas une mais plusieurs recommandations.
Nous avons cette année de la chance car Delcourt Tonkam vient de rééditer deux œuvres du maître de l'horreur en manga, Junji Ito. Vous pouvez donc découvrir Gyo et surtout Spiral. Gyo narre l'invasion du Japon par des poissons à l'odeur pestilentielle et munis de pattes, une œuvre singulière et assez malaisante mais qui ne vaut pas Spiral, ou la malédiction d'un village, bah, par une spirale. Chaque chapitre du manga nous présente un épisode, un aspect de cette malédiction, et bien évidemment, au fil des pages, nous sommes emportés vers un cauchemar de plus en plus horrible. Je dois avouer que les mangas de Ito sont des œuvres qui arrivent à vraiment me toucher, à me terrifier. Par ses thèmes, ses images, je n'en sors jamais indifférent. Et pour notre plus grand bonheur, nous aurons droit à partir de juillet à l'arrivée fréquente de nouvelles rééditions, à commencer par Tomier, autre œuvre phare de ce mangaka. A préciser que les œuvres de Junji Ito sont souvent des one-shots. Ce ne sont pas des œuvres qui vont s'étaler sur des dizaines de volumes, c'est souvent un à deux volumes maximum. Donc n'hésitez pas, ce sont des œuvres vraiment à découvrir si vous voulez passer des nuits blanches. Avant de se quitter, merci à tous ceux qui ont participé et m'ont envoyé leurs réponses. Vous avez été nombreux à trouver cette fois-ci et ça m'a fait vraiment plaisir. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux, par mail, par Facebook, et n'hésitez pas aussi à laisser un petit avis sur Apple Podcast. C'était donc Bruno, qui vous souhaite de belles lectures, de belles découvertes littéraires et culturelles, et qui vous dit à très bientôt dans Easy Reader.
Création TALFHO.